Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci d'être fidèle au rendez-vous de Métropolez-vous avec aujourd'hui un numéro consacré à deux sujets éminemment métropolitains, l'aéroport de Toulouse-Blagnac et l'industrie aéronautique. Depuis un siècle, l'histoire de l'aviation et celle de la métropole toulousaine sont intimement liées, leurs développements respectifs s'étant mutuellement nourris. Posséder un aéroport international et des entreprises aéronautiques mondialement connues a beaucoup contribué au rayonnement et au prestige de notre territoire qui pourrait le contester. Cependant, cet essor et ses retombées n'ont-ils que des aspects positifs? Quel rôle les élus de la métropole ont-ils à y jouer? Plus largement, et ce sera le thème de cette émission, que font nos élus pour le développement de l'aéroport et de l'industrie aéronautique? Et quand on parle de l'aéroport et de l'industrie aéronautique, on pense tout de suite à une ville de la périphérie toulousaine. Je parle bien sûr de Blagnac et son maire est présent dans ce studio. C'est Bernard Keller que je salue et que je remercie d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci et bonjour à vos auditeurs de Radio Présence.
Bernard Keller, vous êtes également conseiller régional et vice-président de Toulouse Métropole pour l'aéronautique, l'espace et les zones aéroportuaires. Quand on est maire de Blagnac, on s'intéresse forcément à l'aéronautique. Mais vous concernant, si vous connaissez si bien ce secteur, ce n'est pas seulement en tant qu'élu, c'est directement lié à votre vie professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'a été cette carrière et peut-être déjà l'entreprise dans laquelle vous l'avez faite?
Ah, c'est vrai que j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie professionnelle avec Aérospatiale, qui elle-même était la descendante lointaine de Dewatine via Sud Aviation, la SNIAS est donc devenue Aérospatiale, qui est devenue tout simplement Airbus, et j'étais le responsable, le chef du département de la communication d'Aérospatiale Avion pendant une quinzaine d'années, et puis j'ai continué, étant devenu maire de Blagnac, de rester conseiller aux relations institutionnelles et conseiller à la communication des différents directeurs d'Aérospatial Avion, d'Airbus Avion.
Donc vous êtes un élu, un politique, comme on dit, qui a eu d'abord un rôle important dans la société civile. Vous êtes vraiment issu de la société civile?
Oui, je suis d'ailleurs assez fier d'être un homme issu de l'industrie et d'avoir des responsabilités politiques dans ce domaine de la vie industrielle. Il est vrai que ce n'est pas dans la vie politique que l'on rencontre le plus de responsable d'entreprise, c'est moi, en tout cas pas tous, c'est pas dans ces métiers-là qu'on rencontre le plus fréquemment des élus.
On entend souvent dire des gens, les élus nous parlent de l'entreprise, de l'emploi, des ouvriers, des travailleurs, comme on disait à une époque, mais qu'est-ce qu'ils y connaissent? Alors vous, on peut pas vous faire ce reproche.
Non, je crois qu'on ne me le fait pas, et d'ailleurs, je compte énormément d'amis dans la vie professionnelle, dans la vie industrielle, à la CGPME et des chefs d'entreprise nombreux, que j'ai côtoyés aussi parce que j'ai créé des clubs de rencontres professionnelles, j'ai même créé le Cercle Doc, qui rassemble quelques importants responsables économiques de la métropole toulousaine. J'ai participé à la création du club Réussir, et à une époque d'ailleurs aussi à la création du club de la communication et des relations publiques. Bref, j'ai dans mon réseau relationnel historique de très nombreux, je compte encore je crois, de très nombreux amis qui ont exercé ou qui exercent encore des responsabilités professionnelles importantes.
Pour toutes ces raisons, mais d'abord parce que vous êtes un élu, vous vous intéressez forcément à l'actualité métropolitaine. Dans cette émission, il y a une rubrique dédiée aux informations de la métropole et c'est Corinne Saint-Félix qui nous la propose. Métropole et vous, l'actu. La première information de ce flash, c'est Toulouse Métropole qui réalise une enquête auprès de tous ses habitants afin de recueillir leurs attentes en matière de logement et d'aménagement public.
Oui, avec un objectif, celui de mieux adapter l'offre de services et de logements dans 6 secteurs en mutation de son territoire, à savoir la Rainerie, Bellefontaine, Empalo, Bagatelle, La Faourette, Papus, Tabar, Bordelongue, Isard, Trois Cocus, La Vache pour Toulouse et Val d'Aran, Fenassier, Poitou-Belair pour Colomiers. Une enquête qui s'inscrit dans le cadre du programme de renouvellement urbain de la métropole toulousaine.
Et comment peut-on y participer ?
Eh bien, un questionnaire est disponible sur le site internet de Toulouse Métropole. Il est très rapide à remplir. Les questions de l'étude abordent par exemple l'image, la localisation et encore le type de logement recherché et souhaité par les habitants. Les résultats permettront de revaloriser la perception de ces quartiers.
Vous le savez, Toulouse Métropole soutient les initiatives innovantes, d'autant plus lorsqu'elles concernent la mobilité.
Et sur 3 ans, la métropole va soutenir à hauteur de 150 000 euros l'autopartage, une pratique qui valorise l'utilisation raisonnée de la voiture en faveur du développement durable. La métropole accompagne le développement de la coopérative d'intérêt collectif Mobilize Cities, qui porte l'offre d'autopartage sur son territoire. Une nouvelle subvention de 22 000 euros est présentée au Conseil de la Métropole aujourd'hui pour pérenniser l'activité de cette société et l'aider à atteindre l'équilibre économique.
L'autopartage, c'est très bien, mais concrètement, comment ça fonctionne ?
Eh bien, il fonctionne sous la forme d'une location pour de courtes durées sur abonnement. Il s'adresse aux particuliers ou aux entreprises qui n'utilisent qu'occasionnellement un véhicule, avec moins de 10 000 km par an par exemple. Un service de voiture dit partagé, accessible en libre service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À ce jour, 61 véhicules sont disponibles en autopartage et quelques 2000 abonnés conducteurs adhèrent à ce service.
Le conseil métropolitain a lieu aujourd'hui et il pourrait y avoir des avancées dans le projet de l'échangeur du Perget.
Le dossier d'avant-projet du réaménagement de l'échangeur, estimé à 2 700 000 euros, sera abordé lors du conseil qui se prononcera sur la poursuite des études, notamment sur les acquisitions foncière nécessaire à cette réalisation. L'échangeur du Perget est situé au niveau de la route nationale 124 sur la commune de Colomiers et permet les échanges entre la route nationale 124 aménagée en 2x2 voies et la route départementale 82. Le projet métropolitain consiste à modifier la sortie existante et à créer une nouvelle voie pour contourner le giratoire terre en direction de la zone commerciale du Perget. Objectif affiché, rendre la circulation plus fluide et éviter les bouchons.
Merci beaucoup Corinne. On va maintenant aller à ce qui intéresse nos auditeurs aujourd'hui, bien au-delà d'ailleurs des frontières de la métropole toulousaine, l'aéroport de Toulouse-Blagnac, l'industrie aéronautique. Que font nos élus pour leur développement ?
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Alors cette question peut sembler un peu provocatrice comme ça, mais on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux liés à la bonne santé de l'aéroport et du secteur aéronautique toulousain, notamment en termes de retombées économiques et donc d'emploi. Les citoyens, a fortiori les élus, ont obligatoirement cela à l'esprit. Mais quel rôle nos élus peuvent-ils jouer dans cette affaire ? Avant d'en parler avec vous, Bernard Keller, pour bien mesurer les enjeux, il me semble important qu'on donne quelques chiffres. Alors notamment si on commence par l'aéroport, la fréquentation.
Cette année, ce seront quelques 8 millions de passagers qui vont augmenter, je crois, de quelques centaines de milliers de nombre de passagers. Voilà, c'est l'aéroport, c'est un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros à peu près. Et des quelque chose comme 92 000 mouvements d'avions. Et ce que l'on peut constater, c'est que si on fait un retour en arrière il y a 10 ans, on transportait pas loin de 2 millions de moins de passagers par an, et il y avait plus de vols, de décollages et d'atterrissage. Aujourd'hui, les avions sont plus gros, on porte plus de gens, donc on a une augmentation du nombre de passagers avec moins de cycles d'avions qui sont devenus, il faut bien le dire, de plus en plus silencieux grâce à la motorisation notamment des Airbus ou même des ATR. Et donc, c'est dans des conditions, on va dire, environnementales qui s'améliorent que s'opère cette croissance du nombre de passagers.
Alors, sujet important sur lequel on reviendra sans doute un peu plus tard. Donc, si j'ai bien compris, pour résumer ce que vous venez de dire, de plus en plus de passagers pour l'aéroport de Blagnac, mais de moins en moins de vols.
Oui, pour le moment. Alors, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ouais, les modules d'avion ne seront pas optimaux pour emporter la croissance du nombre de trafic. Mais vous savez, quelque chose comme 70% des vols sont des destinations entre Blagnac, Toulouse-Blagnac et Paris. Oui. Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle, voilà. Le 30% restant étant du trafic international.
Il y a quand même 40% de trafic international. Il faut que les gens connaissent bien le chiffre. C'est un vrai aéroport international.
Ah, c'est un véritable aéroport international.
Alors, si, et le nombre d'emplois, l'aéroport, c'est quoi ?
L'aéroport lui-même, c'est un peu plus de 300 personnes. Mais si l'on y additionne, si l'on y compte tous ceux qui vivent par l'aéroport, les employés des compagnies aériennes, Air France, certes, mais il n'y a pas qu'Air France, c'est toutes les compagnies, y compris étrangères, qui ont installé là leur base, les loueurs de voitures, les commerçants dans la zone, ceux qui assurent la sécurité, bref, ce sont quelque chose comme 4 000 à 4 500 personnes qui travaillent sur la plateforme aéroportuaire exclusivement pour le fonctionnement de l'aéroport. Sans parler de l'industrie.
Justement, je viens à l'industrie, justement, l'industrie aéronautique, dans la métropole d'abord, c'est combien d'emplois ?
L'industrie aéronautique sur la métropole toulousaine, ce sont 50 000 emplois directs, 80 000 sur la région, ex-région Midi-Pyrénées, et pas loin de 100 000 sur la nouvelle région Occitanie. Mais emplois spécifiquement industriels. Et j'aime bien préciser que, d'abord, on est une des rares régions à avoir su conserver une industrie, et que la France, durant les 20-30 dernières années, a beaucoup perdu de ses industries phares. Il faut savoir qu'un emploi industriel, donné par le donneur d'ordre industriel, génère 3 emplois de plus. Un premier emploi dans la filière industrielle, un emploi de sous-traitance directe. Un deuxième emploi dans les prestations de services liées au métier, ça peut être des bureaux d'études, d'ingénierie indispensables au bon fonctionnement de l'industrie. Et un quatrième emploi dans les services tout court, c'est par exemple le gardiennage, la restauration, le taxi, le covoiturage, bref, ce qui fait vivre un tissu économique autour de cette activité.
Eh bien, nous avons aussi posé certaines de ces questions aux citoyens de la métropole lors d'un micro-trottoir. Et justement, nous leur avons demandé d'abord s'ils avaient une idée du pourcentage d'emplois. Alors là, c'est pas le nombre, c'est le pourcentage d'emplois que pouvait représenter le secteur aéronautique en Midi-Pyrénées.
Métropolez-vous ? Micro-trottoir.
Je vais dire tout confondu 4%.
Je sais pas, 10%.
Pourcentage avec les sous-traitants, je dirais plutôt 15%.
C'est une bonne question. Je sais pas, 30% peut-être.
Je sais que ça représente beaucoup, hein. 50-60%.
Est-ce que selon vous, ce pourcentage est très élevé, est une force ou une fragilité ?
C'est vrai que si demain il y a une catastrophe au niveau aéronautique, on va se retrouver très très mal dans la région. C'est une grande chance, mais ça peut être une catastrophe.
Non, je ne suis pas trop inquiet là-dessus parce que c'est un des secteurs qui devrait échapper à la crise.
Et alors, sachant que ce secteur est majoritairement constitué d'entreprises privées, quel rôle vous pensez que les élus de la ville peuvent jouer dans ce secteur ?
Pour valoriser et favoriser l'implantation de certaines entreprises afin que l'offre devienne pérenne.
Ça peut aider à pousser l'employeur à chercher des solutions.
Et à rester ici.
Voilà.
Oh non, ça c'est l'Europe. Ça. Je ne vois pas ce que veut faire pour les élus, c'est pour les élus toulousains. Ça sera au niveau de l'État français, au niveau des Allemands, Britanniques, etc. C'est les sphères qui les dépassent.
C'est un consortium européen, donc ça dépasse la ville de Toulouse.
Voilà ce qu'on a pu recueillir comme réaction et comme réponse aux questions qu'on a posées. Pour revenir à la question, la première question, moi j'ai vu sur un site internet de l'INSEE que le pourcentage d'emplois que représenterait l'aéronautique en Midi-Pyrénées, j'ai bien Midi-Pyrénées, l'ancienne région Midi-Pyrénées, ce serait de l'ordre de 40% emplois directs et indirects. Est-ce que ça vous semble juste, ça ?
Oui, ça me semble assez juste avec la réflexion que je faisais tout à l'heure, à savoir qu'un emploi industriel génère 4 emplois en fait en tout. Donc ça me paraît un ratio assez correct, et comme le disait l'un de vos auditeurs du micro-trottoir, imaginons 30 secondes qu'il n'y ait plus d'industrie aéronautique dans notre ex-région Midi-Pyrénées, je pense que ça deviendrait
une catastrophe, comme le mot
était. Une grande catastrophe. Mais en fait, considérons que c'est d'abord une chance, voilà, avant que d'être une catastrophe. Alors, c'est en tout cas mon point de vue.
Voilà, justement, la question qui venait ensuite, et que je pense qu'il faut vraiment se poser, est-ce que c'est une force? Alors, c'est une force sans doute d'avoir ce secteur qui marche si bien. Est-ce que c'est pas aussi une fragilité en poussant le bouchon un peu loin? Est-ce que finalement le secteur aéronautique qui soutient l'emploi en Midi-Pyrénées n'est pas un peu un colosse au pied d'argile? Au sens où s'il y avait un jour une grosse crise, je ne sais pas, les carburants d'un seul coup qui augmentaient à tel point que ça devienne beaucoup plus cher un billet d'avion, toujours cette histoire de la sécurité, les attentats, la peur que ça génère. Pour l'instant, apparemment, ça n'a pas trop affecté le trafic, mais on ne sait pas ce que tout ça pourrait devenir.
Je pense que la vie n'est jamais faite de certitudes. La chose qui est sûre au regard du passé récent, c'est que le monde a été en crise de 2008 à aujourd'hui, la France a été particulièrement en crise, Toulouse, notre région, a été beaucoup moins touchée. Grâce à qui ? Grâce précisément à la performance de l'aéronautique, et nous sommes la seule région et la seule métropole qui ait continué à générer des emplois tout solde, tout calcul fait, en solde net. Donc je préfère m'ancrer sur cette réalité au regard d'un passé récent qui montre que c'est une grande force. Si j'ajoute que le carnet de commandes aujourd'hui d'Airbus représente quelques 8 à 9 ans de carnet de commandes.
Ouais, j'en fais 10 ans.
C'est énorme. Allez, jusqu'à pas loin de 10 ans, puisqu'ils ont quelques 6 000, pas loin de 7 000 avions. 7 000 avions à livrer. Donc c'est à peu près ça. C'est à peu près, oui, une dizaine d'années de carnet de commandes. Et ATR, qui reste quand même aussi le champion dans sa catégorie des avions de transport régionaux turbopropulsés. Toute catégorie confondue d'ailleurs, a un carnet de 2 à 3 ans de commandes. Bref, les signes sont au vert et je préfère, moi, considérer qu'on a une énorme chance et que si on a une responsabilité, précisément, compte tenu du fait qu'on a ce géant, c'est d'éviter qu'il ne puisse enliser ses pieds d'argile dans un territoire qui ne ferait pas tout ce qu'il faut pour qu'il y conforte son nid, ses racines, et qu'il puisse y déployer toutes ses capacités de rayonnement dans d'autres secteurs d'activité. Je pense notamment dans le domaine spatial, puisque on a la chance en plus d'avoir su concentrer ici le pôle de compétitivité aéronautique, espace, systèmes embarqués, que quand on dit systèmes embarqués, il y en a partout, il y en a dans votre téléphone portable, le spatial, et tout ça a été issu de l'aéronautique et de l'espace, et on peut, grâce à cette grande force, cette grande expertise, ces spécialités que nous avons ici, avoir un géant, non seulement qui a de l'avenir à l'horizon de 10 ans, et qui en plus peut permettre l'émergence d'activités nouvelles dans d'autres secteurs et certaines applications que l'on ne connaît peut-être pas encore aujourd'hui.
Alors le rôle des élus dans tout ça, vous êtes vice-président de Toulouse Métropole pour ce qui est de l'espace justement, l'aéronautique et les zones aéroportuaires. Quel est votre rôle? Ça veut dire quoi être vice-président de Toulouse Métropole dans ce domaine-là?
Eh bien ça veut dire que d'abord la métropole a une responsabilité économique et qu'elle considère qu'il y a un rôle particulier dans le domaine de l'aéronautique, de l'espace, des systèmes embarqués et des plateformes aéroportuaires et que ça mérite une attention particulière. Mon rôle donc c'est de faire en sorte, pas uniquement comme maire de Blagnac, mais que plus largement comme vice-président de la métropole toulousaine, on maintienne, on sache garder un territoire qui ait la capacité d'accueil. Un exemple, Franck Casal. Franck Casal, il y a quelques années, le gouvernement avait décidé de fermer la piste, considérant que...
Alors je précise que c'était un aéroport militaire à l'origine.
C'était un aéroport militaire et on allait l'arrêter. J'ai fait partie de ceux, avec le maire de Cugnot de l'époque, mon ami Philippe Guérin, et le président de la Chambre de commerce, qui nous sommes battus pour que l'on maintienne Franck Casal en activité. Nous y sommes arrivés, même s'il y a eu quelques rêves qui n'ont pas été réalisés. L'essentiel était que l'on conserva la piste. Quand on voit les difficultés aujourd'hui qu'il y a d'en créer de nouvelles. Et ATR, donc, que j'évoquais tout à l'heure, vient de décider d'y implanter une unité importante de maintenance aéronautique pour ses avions et ses compagnies aériennes. Voilà un exemple récent, le plus récent, concret. Les élus, que peut-on faire? C'est d'abord préserver justement ses capacités de développement pour notre industrie phare, et c'est donc les réserves foncières qui vont bien. Blagnac n'a pas hésité... Il y a 40 ans passés, a déplacé un collège pour permettre l'installation de ce qui est devenu le siège d'Airbus Avion. À l'époque, c'était un truc, c'était un machin, ceux qui avaient fait Concorde disaient, bon, c'était de l'autre côté de la rue. Enfin, c'est là que, historiquement, s'est installé le consortium, qui était un groupement d'intérêt économique à l'époque, qui a généré Airbus. La fantastique histoire d'Airbus et la boucle est bouclée. Tom Enders vient de décider récemment d'installer le siège mondial du groupe, c'est-à-dire aussi la responsabilité sur les hélicoptères, sur la défense, sur les sites, sur les engins et sur l'espace, à Blagnac. Au passage, nous n'avons pas hésité aussi encore à Blagnac à déplacer une zone de loisirs de quelques 160 hectares pour permettre l'installation de la zone d'aéroconstellation qui a permis l'implantation de la chaîne d'assemblage de l'Airbus A380 et aujourd'hui du parc des expositions, pour ne prendre que cet exemple. Et tout ça, il fallait le desservir correctement, bien sûr, parce que c'est bien d'avoir des réserves foncières. Il a fallu faire un itinéraire à grand gabarit avec l'État, bien évidemment, hein, et l'ensemble, je dois dire, des collectivités locales. Ça a précipité, d'ailleurs, je crois, j'en suis certain même, le fait que de la coopération intercommunale autour de Toulouse, d'abord avec Toulouse, Blagnac et Colomiers, pour faire simple, et puis un certain nombre de communes qui font qu'aujourd'hui, nous sommes métropoles et beaucoup plus puissants et consensuels pour justement participer à la défense et illustration des besoins de nos industries.
Alors, me vient une question à l'esprit, on vous entend entendant parler de ce sujet précis, c'est que Toulouse Métropole, c'est pas un ensemble fermé. Au-delà, il y a d'autres intercommunalités, il y a une région. Et en tant qu'élu, alors il se trouve qu'en plus vous êtes élu métropolitain, mais aussi conseiller régional. Donc je pense que vous avez aussi à veiller à certains équilibres dans le domaine de l'emploi, dans le domaine des services, pour des décisions comme celle-ci, l'itinéraire à grand gabarit. Comment vous intervenez là-dedans?
Ben écoutez, tout à fait. Je suis conseiller régional et la présidente du conseil régional Occitanie m'a confié la présidence de la commission industrie, grand groupe et services aux entreprises. Donc je fais partie de ceux qui évidemment participent avec elle et tout le staff de la nouvelle région à faire en sorte que notre activité économique continue à se développer. Et en ce qui concerne la responsabilité qu'elle a bien voulu, Carole Delga, me confier, plus particulièrement en relation avec les grandes industries et les services aux entreprises qui participent au développement de ces activités créatrices d'emplois, bien évidemment.
Alors dans le micro-trottoir, il y a des gens qui disaient « Nos pauvres élus toulousains, ils peuvent pas grand-chose parce que c'est un consortium européen ». C'est un peu quand on nous dit « Président de la République française », de toute façon les décisions se prennent à Bruxelles. Est-ce que c'est vrai, c'est que nos pauvres élus toulousains ne peuvent pas grand-chose face à ce géant européen ?
Je pense que c'est faux aujourd'hui. On pouvait s'en plaindre il y a encore une trentaine d'années, mais il y a quelques années, bientôt une dizaine d'années, c'est un sommet franco-allemand avec Gerhard
Schröder
et Chirac qui s'est tenu à Blagnac, qui a participé à prendre la décision de lancement de la 3X6 qui est devenue l'Airbus A380. Et Tom Enders, président d'Airbus Group aujourd'hui, a installé le siège d'Airbus Group à Blagnac. Donc les décisions des conseils d'administration se décident, on va dire, dans la métropole toulousaine, parce que je vais quand même pas faire un cocardisme un petit peu trop
déplacé.
Blagnacé. N'empêche que les décisions se prennent plutôt ici, sur le territoire qui, précisément, a mis en œuvre l'ensemble des conditions d'accueil, avec notamment la ville de Toulouse et la ville de Colomiers, je dois dire, qui ont permis, s'agissant d'Airbus, une implantation qui aujourd'hui est quelque part la vitrine d'une réussite européenne que l'on nous envie.
Autre sujet qui rejoint un peu cette question, l'aéroport de Toulouse-Blagnac. On a lu, on a entendu parfois, on a lu dans la presse qu'il avait été vendu aux Chinois. Qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'il aurait été vendu aux Chinois? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire avec les Chinois et l'aéroport?
Alors, l'aéroport n'a pas été vendu, c'est clair, ça reste une propriété, les terrains, les pistes, les bâtiments,
les infrastructures,
propriété nationale, française, voire des collectivités locales quand c'est sur des parties périphériques. Ce qui a été cédé à 49,99%, c'est-à-dire c'est pas la totale, ça n'est pas la majorité, c'est des participations de la société qui fait vivre, qui exploite l'aéroport, et cela pour quelques 40 ans. Un consortium chinois, effectivement constitué de deux sociétés chinoises qui ont fusionné dans la création d'une société française qui s'appelle Casil, qui ont effectivement acheté 50% de, ou pas loin des 50% des participations, qui étaient des participations de l'État. C'est l'État français qui a décidé de céder ses participations, sans doute considérant que c'était plus trop son métier que de gérer les aéroports. Je fais partie de ceux qui ont regretté, déjà quand cette décision a été prise du temps de Monsieur Sarkozy d'ailleurs, mais on n'était peut-être pas obligé de continuer à prendre cette décision-là, à regretter que l'on céda une activité, ou plutôt la gestion d'une activité que, pour ma part, avec beaucoup d'autres, je considère comme étant une activité de souveraineté. Quand je dis souveraineté, de souveraineté nationale, régionale, un port, un aéroport, des routes, des autoroutes, ce sont des éléments indispensables au bon fonctionnement d'une nation, d'un État, d'une région. Voilà. Donc on n'a pas vendu l'aéroport. On a vendu simplement des participations et je fais, dès lors que ce sont aujourd'hui des partenaires chinois, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut savoir travailler avec eux et positiver une fois qu'une décision est prise.
Donc c'est une chance aussi, de ce point de vue.
Et ça, on doit faire en sorte que ce soit une chance. Il faut aussi qu'ils nous donnent la preuve que c'est une chance pour nous.
Bon, il fallait que ce soit dit. Merci beaucoup pour votre venue et cet échange, Bernard Keller. J'espère que cette émission a permis à nos auditeurs d'avoir une vision plus claire des enjeux liés au développement d'aéroports de Toulouse-Blagnac et de l'industrie aéronautique dans notre métropole et notre région. Vous voyez que la question a l'air d'être prise à bras-le-corps par nos élus. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, passez un bon week-end et n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.